Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Michel Philippot, bienvenue sur Bretagne 5, la plume est à vous. Invitée de notre émission ce soir, Evelyne Pernelle, avec deux récits autour de l'enfance, extraits de « À l'aube des arcs-en-ciel », un ouvrage à quatre mains publié chez Kidour Éditions, où l'on retrouve aussi Patricia Guillemin, dont nous avons pu apprécier l'écriture à plusieurs reprises dans cette même émission. Écoutons, pour commencer, sous la plume sensible d'Evelyne Pernelle, ce premier texte écrit à hauteur d'enfant et intitulé « La mission d'Angela ». Il fait particulièrement froid en cet hiver. Un ciel opaque et chargé de neige plombe la campagne d'Ille-et-Vilaine. Si cette rigueur ne cesse, le bois fera défaut pour chauffer les maisons. Pourquoi les malheurs n'arrivent-ils jamais seuls ? Se dit Angela en remontant ses chaussettes de laine en accordéon, dans les sabots de bois. Elle a pris soin de rentrer sa natte blonde sous son manteau élimé par les ans. On ne trouve pratiquement plus rien à acheter dans les boutiques et encore moins du tissu. Les stocks sont épuisés. Elle marche d'un bon pas, serrant contre elle un panier contenant quelques œufs et une enveloppe cachée sous les torchons soigneusement pliés. Pas question de traîner, même si aujourd'hui il n'y a pas classe. Elle a une mission à remplir. Son enfance rude, mais tranquille, de petite paysanne, a bien changé. Comme pour la plupart des familles depuis cette guerre qui s'enlise. Depuis le début du conflit, règne comme un silence malsain. Tout ce qu'on entend relève de rumeurs ou d'expériences vécues dans le pays et ailleurs. Certains jours, des avions appelés bombardiers sillonnent le ciel. Le vacarme est fracassant. On a l'impression qu'ils vont tout raser sur leur passage. Angela est pétrifiée à chaque fois qu'elle entend ces engins. Les denrées alimentaires se raréfient, dit-on, dans les villes, mais à la campagne, il y a toujours les légumes du jardin, un peu de lait, quelques œufs et parfois du fromage. Les poules sont cachées dans les granges. Quant au lapin, il est attristant pour Angela de ne plus pouvoir les nourrir. Par manque de viande et surtout par crainte que la commande en tour ne vienne chercher les lapins gardés pour la reproduction. Sa tante a dû se résigner à les tuer. Dimanche, la famille s'est rassemblée et on a fait un bon repas. Les pots sont étendus dans le grenier, bien, bien camouflés. En souvenir.
Ce sont des lapins que les Allemands n'auront pas,
a-t-elle dit, en servant le civet arrosé d'une vieille bouteille de cidre. Depuis ces derniers jours, la région est particulièrement touchée, comme cette ligne de chemin de fer détruite pas très loin d'ici. Tout en jetant un œil méfiant autour d'elle, la fillette essaie de rester naturelle. Elle demeure sur le qui-vive, surtout depuis hier, car en rentrant de l'école, elle a croisé deux soldats allemands en patrouille, et l'un d'eux l'a brutalement saisi par la manche. Paniquée, elle se voyait déjà entre les mains de tortionnaires. Son regard, implorant la pitié, a-t-il touché la fibre paternelle de l'autre soldat, ou a-t-elle eu tout simplement de la chance? Toujours est-il qu'il s'est opposé à la mauvaise intention de son compatriote. Elle a eu chaud. En y repensant, elle tremble encore. Heureusement que tous les hommes ne sont pas foncièrement mauvais, se dit-elle, du haut de ses 10 ans. Samedi dernier, elle avait déjà fait une curieuse rencontre en revenant de chez sa tante. Un jeune homme égaré, l'air abattu, lui avait demandé le chemin de la forêt. Il laissait percevoir le trouble dans son regard et dans sa voix. Elle, qui pensait jusqu'alors que les hommes manquaient de sentiments. Il n'était pas de la région, cela se voyait. De plus, on avait l'impression qu'il était en fuite. Il avait fini par lui confier le vol de son cheval par les Allemands, son fidèle compagnon de service militaire dans la cavalerie, qu'il affectionnait particulièrement. Ce fut une chance qu'il s'adresse à elle pour demander sa route, car avec tout ce qui se tramait dans la région, en tout cas, si les jeunes du contingent circulent dans les campagnes, c'est qu'il se passe quelque chose d'étrange, pense-t-elle. C'est sans doute la raison pour laquelle elle croise souvent des patrouilles, se dit-elle, accélérant le pas. La fillette fait déjà preuve d'une grande maturité. Elle sait que certaines révélations peuvent entraîner de graves conséquences. Dans le voisinage, au sein des familles, à l'école aussi, où les enfants s'expriment spontanément, on ne connaît pas toujours les intentions des gens. Les adultes évitent d'épiloguer sur les événements, mais Angela a entendu parler de fusillades, parfois de victimes choisies au hasard et de départs en Allemagne suite à des dénonciations de personnes collaborant avec l'ennemi. Un de ses oncles vit à Paris où la situation est encore plus dramatique. Il faut descendre dans les caves quand la sirène retentit. Les gosses vivent cela comme un jeu, jusqu'au jour où un bombardement a lieu près de chez eux. Ils se pressent maintenant de regagner les sous-sols, serrés contre leurs parents, en attendant la fin des hostilités. Chez Angela,
On espère la fin de la guerre et on compte sur les résistants qui s'organisent clandestinement. Mais on n'en parle pas. Son père écoute la radio de temps en temps et elle a surpris des messages étranges. Elle est sûre qu'il se trame quelque chose. Si cela pouvait annoncer la fin de cette guerre, elle aspire tant à retrouver son insouciance. Pouvoir trouver du ravitaillement chez les commerçants, manger ce que l'on veut, se déplacer sans crainte, vivre en paix. Angela ne pense plus qu'à cela. La fillette se rapproche de sa destination. Elle aperçoit la fameuse boulangerie où elle doit rencontrer cette femme que son père lui a décrite. C'est à elle qu'elle doit remettre le torchon et son contenu. Quand elle lui dira « L'ordonnance est prête pour Gabriel. » Eh oui, une jolie femme brune et élancée ne tarde pas à venir à sa rencontre. Elle sourit à Angela qui reste de marbre et lui demande de la suivre chez le docteur tout en s'esquivant. Probablement un changement de dernière minute, pense l'enfant. Cependant, le bon code étant donné à la personne désignée, la gamine s'exécute. Dans le cabinet du docteur, elle y reconnaît de suite cette infirmière au caractère bien trempé, propriétaire d'un domaine situé dans la forêt proche du village et exerçant dans la région. « Merci pour l'ordonnance, c'est pour Gabriel, » lui dit-elle, en prenant possession de la missive et en caressant affectueusement la joue de la fillette. Elle lui glisse un bonbon au coquelicot dans la bouche, un véritable trésor en ces temps de restriction. Angela, soulagée, fière d'avoir réussi sa mission, reprend la route d'un pas allégé sous les premiers flocons de neige. Plus tard, elle apprendra que cette femme était une grande dame de la résistance qui cachait les opposants, les déserteurs et les gens poursuivis par la Gestapo. Bien qu'ignorante de l'enjeu, elle se sent grandie par ce devoir accompli. Elle laisse toutefois échapper une larme. Elle n'a qu'une envie, rentrer chez elle, vite, à la maison, et raconter à l'oreille de son ours Grison ce qui s'est passé. Grison, lui qui, bien sûr, entend tout, mais ne répète rien à personne. Les ours en peluche ne ressentent peut-être pas l'amour, mais ils consolent si bien. Eux qui ignorent tout des guerres et de la barbarie des êtres humains.
Chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles, naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. Assez grand pour la vie. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands. Assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Je suis trop petit pour me
merveilleux, merveilleux Higelin, tout est dit de cette innocence volée, arrachée à l'enfance que chamboule guerres et conflits adultes. D'aucuns nous penseront peut-être rêveurs, naïfs, bisounours, comme on le dit parfois avec condescendance. Mais n'est-ce pas précisément là, dans ces rêves, dans cette poésie du quotidien, dans cette résistance à la barbarie sans nom, que réside encore une part de notre humanité? Le second texte que nous offre Evelyne Pernel a pour titre « Sur un air de Kenna ». Kenna ou Kenna avec QU ou avec un K, selon les musicologues, cette petite flûte à encoche très répandue en Amérique du Sud et particulièrement au Pérou, en Bolivie, taillée dans du roseau et anciennement dans de l'os, comme s'en souviennent sûrement les lecteurs tintinophiles du Temple du Soleil. Evelyne Pernel, sur un air de Kenna. Animés de Lima, il n'est pas rare de voir des musiciens quechua avec leurs belles et longues chevelures noires parées de vêtements bariolés, de les voir jouer de la flûte, de la quena, afin que la foule, charmée par leurs notes mélodieuses, ralentisse le pas pour leur accorder un peu d'attention. Ils y parviennent à merveille, car il y a toujours un air traditionnel qui émeut ou retient quelques passants emprunts de nostalgie. D'autres animations s'improvisent également d'un quartier à l'autre.
attiré par les rires, le petit Alvaro s'approche d'un attroupement et surprend un spectacle spontané organisé par des enfants. Il s'émerveille en les voyant se livrer avec autant d'imagination à leur clownerie et autres pitreries cocasses tout en jonglant, ce qui amuse les badauds et leur vaut pour récompense 2 ou 3 pièces déposées dans un vieux bonnet de laine multicolore. Les rues fourmillent de gosses. Certains chantent dans les bus, d'autres cirent les chaussures, tous, pour des raisons pécuniaires. Abasourdis par le bruit des klaxons et de la cohue, ils découvrent le petit Alvaro avec curiosité, les immeubles, les monuments, les magasins. L'enfant est arrivé dans la capitale avec sa famille, et malgré son jeune âge, il a vite compris qu'en dépit des promesses d'une vie meilleure, sans argent, on ne vit pas mieux en ville. Heureusement, son oncle et sa tante habitent Lima et peuvent l'héberger, lui et sa famille, le temps que son père trouve un travail et une habitation décente. Ils vivent donc dans de meilleures conditions que la plupart de ces familles ayant quitté leur terre pour la capitale où une vie précaire et immanquablement uniforme les attend. Le mot « logement » révèle en réalité des bidonvilles ou des maisons aux toits inachevés, ressemblant davantage à des squats qu'à des logis décents. Mais c'est sans doute une affaire de temps. Ils vont bien finir par s'en sortir. Beaucoup d'autres enfants, livrés à eux-mêmes, vivent en bande dans la rue, finissant par commettre des larcins, sombrant dans l'alcool, ou même pire. Conscient du mal qui ronge les grandes villes, le père d'Alvaro veille à l'éducation de ses enfants et les a déjà scolarisés. En observant les artistes en herbe déguisés en clowns, l'esprit du gamin vagabonde dans un imaginaire fantasque peuplé de personnages mythiques où le temps reste en suspens, loin des réalités du moment. Il revoit aussi les fêtes animant les campagnes au son des flûtes et tambourins à l'occasion d'une récolte ou d'un événement. Il croit entendre le rire jovial des femmes embellies de chapeaux typiques et de robes aux multiples jupons de couleurs vives, tournant et dansant sous le regard amusé des hommes aux ponchos ornés de motifs séculaires. Depuis toujours, les aïeux d'Alvaro ont vécu dans un petit village sur les plateaux de l'Altiplano, près du lac Titicaca, là où depuis des siècles sont cultivées, selon un procédé ancestral, les précieuses pommes de terre. Les anciens lui ont conté l'histoire, la culture originelle du peuple quechua, l'arrivée des conquistadors qui, après s'être approprié leurs terres, leur ont imposé religion, langue et mode de vie. Pour mieux effacer leur identité, des noms espagnols leur ont été attribués. Puis, très vite, sous le joug de colons exerçant des actes de violence physiques et morales, les paysans ont dû cultiver pas moins de 200 espèces de cette délicieuse pomme de terre déshydratée et conservée sur les hauts plateaux. Leurs récoltes font l'objet de réjouissances avec la grande fête annuelle de la papa, la pomme de terre. Quitter son village, c'est aussi laisser sa langue, quechua ou aymara, qui a survécu en dépit de l'hispanisation et dont le grand-père d'Alvaro lui a enseigné les rudiments. Si les paysans ont peu d'argent, ils ont un toit, mangent à leur faim et surtout vivent dans un environnement d'une beauté indicible où musique et danse rythment la vie sur une note intemporelle. Faut-il incriminer le temps, ou plutôt les êtres humains, qui forment le vœu utopique de vouloir changer le monde? Le mirage de la grande ville arrive jusque chez eux et certains finissent par se convaincre que leurs enfants vivraient mieux dans la capitale. Ainsi, ceux-là quittent leur nid pour ne jamais y revenir. Heureusement, de son côté, Alvaro s'est lié d'amitié avec quelques enfants à l'école et il est curieux d'apprendre. Toutefois, il manque beaucoup à la vie d'un petit garçon habitué à la liberté qu'offrent les grands espaces où il suffit de regarder le ciel ou les eaux d'un lac pour comprendre l'harmonie de la Pachamama, la terre-mère. Alvaro aimait cette terre qu'il a laissée. Il se remémore les eaux profondes et enchanteresses du lac Titicaca, semblable à une petite mer où naquirent tant de légendes pré-Inca. De ses grands yeux noirs légèrement en amande, il scrutait la moindre vague, cherchant la vision du légendaire poisson d'or appelé Corichalwa en langue quechua. La légende raconte que le roi avait une fille très belle, à la longue et soyeuse chevelure d'ébène, dont tomba éperdument amoureux le poisson d'or. Mi-garçon, mi-poisson, comme le sont ses sœurs les sirènes. Trop pauvre, il fut immédiatement rejeté du domaine et dut braver bien des aventures pour obtenir la main de sa belle. Alvaro, lui aussi, pense pouvoir un jour rencontrer une princesse. À 8 ans, les enfants aiment cette histoire porteuse de rêves, traversant les âges. Le soir, avant de s'endormir, il lui semble apercevoir les troupeaux de lamas et d'alpagas broutant les touffes d'herbe. Il sourit en pensant à la course folle des farouches vigognes vers la liberté dès la tonte achevée. La récolte de la laine de ces animaux s'accompagne toujours de festivités. Il garde en mémoire le condor, l'oiseau roi, symbole de l'Amérique du Sud, déployant ses grandes ailes et survolant majestueusement montagnes et plateaux. Se rappelle toutes ces merveilles en se disant qu'il grandira, qu'il voyagera. Cette séparation a fait germer en lui le goût subtil de l'aventure. Le soir, avec sa mère, il confectionne des petits bateaux avec des roseaux qu'ils ont ramenés pour vendre aux touristes. Il a une flûte également et s'entraîne. Cela demande du souffle. Au début, il était saisi de vertige. La tête lui tournait, puis peu à peu, les notes sont sorties, comme par enchantement. À peine a-t-il quitté des yeux le spectacle des gosses de rue, qu'il est témoin d'une autre animation musicale, cette fois-ci, et de belle qualité. Fasciné, il s'approche timidement des musiciens. Un de ses cousins éloignés, Alejandro, joue dans le groupe. Il aperçoit l'enfant, l'encourage à interpréter un air afin de lui faire plaisir. Étonné, jugeant qu'Alvaro est doté d'évidentes capacités, celui-ci décide, au grand ravissement du gamin, de l'initier au secret des quenas, flûte de pan, et pourquoi pas du charango, cette guitare miniature construite avec une carapace de tatou. Alvaro se sent transporté. Il a trouvé sa vocation. Il sera musicien. Il voyagera à travers son pays et pourquoi pas au-delà des frontières, par-delà le monde. Il se fera messager de la musique de ses ancêtres, soufflant les notes magiques. Peut-être même enregistrera-t-il des disques. Mais une chose est certaine, il retournera sur cette terre où l'attend toujours Cory Chalois dans le lac Titicaca. Une belle pensée pour ce petit Alvaro et pour sa culture si riche et tellement malmenée. Puissent ses rêves un jour nourrir l'âme de sa musique. Et pour cultiver cet esprit, je vous propose pour terminer d'entendre la voix de Luzmila Carpio, ambassadrice du chant quechua de Bolivie. Toute son action artistique a eu pour objectif, selon les termes du journal Libération, de faire, je cite, « prendre conscience aux indigènes quechua et aymara de leur culture millénaire, de leurs droits et de soutenir le combat des femmes ». Et en 2006, Luzmila Carpio a été nommée par le président Evo Morales ambassadrice de Bolivie à Paris et elle le restera 4 ans. Le texte de la chanson que vous allez entendre en langue quechua et que j'ai traduit de sa version anglaise dit à peu près ceci. Ne me laissez pas chanter seul. Crions bien fort, charingo de mon cœur. Jamais nous ne baisserons la voix. Jamais nous ne sombrerons dans l'oubli. Hommes, femmes, enfants, joignez-vous à moi et chantons avec force nos chants de révolte. Nous refusons de disparaître. Protestons et crions pour vivre dans la joie de nos nations indigènes. Hommes, femmes, enfants, charingos, tel un petit oiseau, joignez-vous à mon chant. Ensemble, exigeons justice et respect pour nos peuples. Brisons ce silence où nous vivons à jamais, dignes et courageux. Peuple du Tawantinsuyu, Pachamama, notre terre-mère, je chante à la gloire de vos fleurs si belles. Charingo, mon frère, explorons de nouvelles voies de par le vaste monde. Charingo, mon frère, exigeons le respect de nos peuples. Yanapawa, ay malakas si Marita.
sein Marissum, sim Marissum, unser Macau sei auf dein
Merci, merci à Evelyne Pernel pour ces deux très jolis textes. La plume est à vous, eh bien c'est fini pour ce soir. Merci à Frédéric Guyon, à la réalisation pour son exigence d'orfèvre. Je vous retrouve dimanche en 8 à cette même heure pour une nouvelle édition de La plume est à vous. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vos textes sont toujours, toujours les bienvenus. N'hésitez pas à les adresser à plume@bretagne5.fr en minuscule et le 5 en chiffres, en joignant à vos coordonnées une courte biographie. Passez une très agréable semaine avec les programmes de Bretagne 5. Prenez bien soin de vous et des autres. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.